VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition de mercredi 8 avril 2020. Eric Manirakidza à la présentation. Voici d'abord les titres. L'Union africaine a porté son soutien à l'OMS face aux attaques du président américain Donald Trump. Au Niger, la justice ouvre une enquête sur l'affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées à l'armée. Bernie Sanders suspend sa campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures. L'Europe enregistre plus de la moitié des cas de Covid-19 avec plus de 750 000 contaminations dans le monde. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La justice nigérienne va ouvrir une enquête dans la médiatique affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées lors d'achats d'équipements militaires. Le rapport transmis par le parquet général fait état d'insuffisance des cadres institutionnels et réglementaires de marché public spécifique et passe au peigne fin un total de 177 dossiers dont les conditions de passation, d'exécution et de paiement de certains d'entre eux sont susceptibles de qualification pénale. Le 9 mars, le secteur judiciaire au Niger avait été paralysé par des magistrats demandant aux autorités de transmettre l'audit à la justice. Fin février, le gouvernement a annoncé qu'un audit avait révélé des surfacturations ainsi que des livraisons non effectuées dans des achats d'équipements pour l'armée. Le gouvernement avait annoncé avoir décidé de faire rembourser les sommes indûment perçues. Je vous le disais dans les titres, l'Union africaine défend l'OMS contre les critiques du président américain Donald Trump alors que l'Éthiopie déclare l'état d'urgence pour lutter contre le coronavirus. Les derniers développements liés au Covid-19 en Afrique avec Jacques Aristide.
C'est la première fois que l'état d'urgence est instauré en Éthiopie depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed qui souligne que la pandémie de coronavirus s'aggrave. La maladie a affecté 55 personnes et fait 2 morts dans le pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a suspendu pour 2 mois une de ses ministres qui avait participé à une fête chez des amis en violation flagrante du confinement. Il s'agit de la ministre des Communications, Estelan Dabeni Abraham, prise en flagrant délit de désobéissance sur une photo publiée sur Instagram où elle apparaît en train de déjeuner avec 5 autres personnes au domicile d'un ex-ministre. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a défendu ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé contre les attaques du président américain qui a dénoncé la gestion de l'OMS du Covid-19. Donald Trump a menacé de suspendre la contribution américaine. Monsieur Faki se dit surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène campagne contre les dirigeants mondiaux de l'OMS. Il ajoute que l'UA soutient pleinement le patron de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le président libérien George Weah a déclaré mercredi l'état d'urgence sur l'ensemble du pays, assorti d'un confinement obligatoire pour plusieurs régions, dont la capitale Monrovia, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Toutes les entreprises et services de l'État non essentiels sont fermés. Les habitants de 4 comtés, dont celui de Monrovia, environ 1 million d'habitants, devront rester confinés chez eux pendant 2 semaines, a-t-il ajouté. Une cour d'appel soudanaise a confirmé mercredi la condamnation de l'ancien président Omar El-Béchir pour corruption à 2 ans de détention dans un centre correctionnel. Condamné le 14 décembre par un tribunal spécial pour avoir reçu des fonds de l'Arabie Saoudite, il a été déclaré coupable de possession de devises étrangères et de corruption dans le cadre de cette affaire. Monsieur Béchir a reconnu avoir perçu un total de 90 millions de dollars de la part de dirigeants saoudiens. Parallèlement, monsieur Béchir est sous le coup de 2 mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale. La justice portugaise a ordonné la saisie d'une participation de 26% dans le groupe de télécommunications NOS, détenu par la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos, soupçonnée d'avoir investi au Portugal des fonds détournés de son pays. Isabel dos Santos a contesté sur son compte Twitter cette décision qu'elle estime abusive. Cette saisie la prive de droits de vote et de dividendes, précise Sonaicom, qui détient 52% de NOS en partenariat avec Isabel Dos Santos à travers la société ZOPT. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné mardi les bombardements intensifs pour la deuxième journée consécutive de l'hôpital général Al-Qadra à Tripoli dans un communiqué publié à New York. Les combats ont redoublé d'intensité ces derniers jours, touchant plusieurs quartiers résidentiels de la capitale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé mercredi à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche selon un communiqué mettant fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une série de lourdes défaites face au favori Joe Biden. Bernie Sanders, 78 ans, a prononcé un discours retransmis sur Internet. L'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, est désormais le seul candidat démocrate en lice pour affronter Donald Trump le 3 novembre prochain. Le coronavirus continue de faire des ravages aux États-Unis qui ont enregistré près de 2000 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, pire bilan journalier dans le monde. Hier, des milliers de personnes sont allées voter pour les élections locales et la primaire démocrate dans le Wisconsin qui enregistre près de 100 morts du COVID-19. Les précisions de Nathalie Barge.
À Milwaukee, où seuls 5 bureaux de vote ont pu être ouverts pour près de 600 000 habitants, des électeurs ont dû attendre plus d'une heure les uns derrière les autres avant de voter. 2500 membres de la garde nationale ont été déployés pour combler les absences de fonctionnaires. Ce vote a suivi un bras de fer entre républicains et démocrates qui voulaient repousser le vote au 9 juin. Les résultats sont attendus la semaine prochaine. D'autre part, dans le sud des États-Unis, des contrôles sont effectués entre le Texas et la Louisiane. Avec près de 16 300 cas positifs au coronavirus et au moins 580 morts, la Louisiane est l'un des États les plus touchés. Le Texas compte environ 8 300 cas et 154 décès.
Toujours aux États-Unis, plusieurs responsables affirmaient que le COVID-19 est plus mortel pour la population noire dans plusieurs régions. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Les Noirs représentent 14% de la population américaine, mais 42% des décès dus au Covid-19. À Washington, par exemple, 13 des 22 morts étaient Noirs. À Chicago, les disparités coupent le souffle, selon la maire de la ville, Lori Lightfoot. 72% des morts sont noirs, alors qu'ils représentent moins d'un tiers des habitants. Pour l'instant, il n'existe pas de statistiques nationales. Nous savons que les noirs sont plus susceptibles d'avoir du diabète, des maladies du cœur et des poumons, a dit hier Jérôme Adams, un médecin en chef aux États-Unis. Or, ces maladies augmentent le risque de complications du Covid-19. Il est aussi vrai que les quartiers noirs et pauvres ont moins de médecins, d'hôpitaux de qualité et moins de couverture médicale.
L'Iran, l'un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus, appelle le Fonds monétaire international FMI au secours. Pendant ce temps, plus de la moitié des cas de Covid-19 se trouvent en Europe, avec plus de 750 000 contaminations. Le point sur la situation dans le monde avec Abdelrahman Dia.
Avec au moins 750 000 cas, dont 58 727 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de COVID-19. Dans le monde, 1 438 291 cas et 82 726 morts ont été enregistrés. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne sont les quatre pays comptant plus de 100 000 cas sur le continent. Ailleurs, l'Iran a annoncé ce mercredi 121 décès supplémentaires, ce qui porte à près de 4 000 le nombre de morts sur environ 65 000 contaminations. Le président iranien Hassan Rouhani, dont le pays est de loin le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, a demandé au Fonds monétaire international un prêt d'urgence de 5 milliards de dollars. Le pays est sous sanctions américaines. En Chine, des milliers de personnes ont célébré ce mercredi la fin du confinement à Wuhan, la ville d'où est partie cette pandémie. Des dizaines de milliers de voyageurs se sont rués dans les gares routières et ferroviaires pour quitter la ville.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson entame dans un état stable une nouvelle journée mercredi en soins intensifs où il se bat contre le nouveau coronavirus qui a tué près de 6200 personnes au Royaume-Uni. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Ekia Bado.
La première compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines, a déjà perdu un demi-milliard de dollars et fermé la plupart de ses lignes passagers depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et s'est tournée, pour atténuer cet impact, vers les vols charter et fret, a annoncé son PDG. Ces dernières semaines, Ethiopian Airlines a distribué de l'équipement médical sur le continent africain, rapatrié des bénévoles américains et évacué depuis les États-Unis vers leur pays d'origine en Asie des employés de paquebots de croisière. Le groupe Glencore a suspendu l'exploitation de ses mines de cuivre en Zambie pour cause de pandémie de coronavirus, attirant les foudres du gouvernement et des syndicats. Dans un communiqué, le géant mini a justifié l'arrêt jusqu'à nouvel ordre des opérations de sa filiale, Mopani Copper Mines, pour la baisse des cours du cuivre et les perturbations causées par le Covid-19 à ses chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement zambien a de son côté vivement dénoncé la décision qu'elle juge illégale. Les secteurs de l'élevage et de l'énergie au Cameroun viennent de bénéficier des ressources financières de la Banque africaine de développement avec la signature d'un prêt d'environ 205 milliards de francs CFA. Ce montant va servir au projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, ce qui va renforcer le processus d'intégration sous-régionale et améliorer l'accès des populations à l'énergie électrique.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Burkinabé Bertrand Traoré de l'Olympique Lyonnais, le Sénégalais Banyang du Stade Rennais, le Nigérian Victor Osimhen de Lille et d'autres Africains évoluant en Ligue 1 française pourraient voir leur salaire baisser bientôt. Les dirigeants et les footballeurs du championnat de France ont scellé un accord invitant à une baisse provisoire des salaires pour préserver la trésorerie des clubs face au coronavirus. Selon cet accord, les footballeurs acceptent une réduction temporaire de salaire qu'ils toucheront au moment du versement des droits télévisés, actuellement gelés par les diffuseurs. Il s'agit toutefois d'une simple recommandation, car selon le droit du travail, on ne peut obliger personne à y adhérer, a affirmé Philippe Piat, président du syndicat national des footballeurs professionnels. En Espagne, le Séville FC a présenté un plan de chômage partiel qui affectera 360 salariés du club andalou. Il se traduira par une réduction de 70% du volume horaire. Des membres du staff et des joueurs et joueuses des équipes premières masculines et féminines et de l'équipe réserve. Avant le Séville FC, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid ou l'Espagnol Barcelone ont eu recours à ce type de plan. Selon la Liga, si les compétitions européennes et les championnats espagnols ne parviennent pas à terminer la saison en cours, les clubs espagnols pourraient perdre près d'un milliard d'euros. En Angleterre, l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, affirme qu'il comprendrait si la pandémie de Covid-19 entraînait l'annulation de la saison. « Je vais gagner les matchs et je vais remporter le trophée. C'est ce que j'aimerais, mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrai », a-t-il confié à la radio Talk Sport. Avec 25 points d'avance sur Manchester City, quand le championnat a été interrompu, Liverpool était pratiquement assuré de décrocher son premier titre national depuis 1990. Mais l'interruption de la saison à cause de la pandémie de Covid-19 laisse son épilogue en suspense, comme celui des autres grandes ligues européennes. Et pour finir, après plus d'un mois d'incarcération au Paraguay pour usage de faux passeports, Ronaldinho a été assigné à résidence dans un hôtel d'Ascension après dépôt d'une caution de 1,6 million de dollars acceptée par la justice paraguayenne. Ronaldinho et son frère Roberto ont été arrêtés le 6 mars, accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports. Les deux hommes se sont rendus dans la capitale paraguayenne pour faire la promotion d'un livre et participer à des opérations de bienfaisance. La justice brésilienne a privé Ronaldinho de son passeport en fin 2018 à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars qu'il n'a pas payé pour avoir construit une GT sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le Cameroun appelle les habitants de deux villages situés à la frontière avec le Nigeria à sortir de leur cachette et rentrer chez eux. Deux adolescents se sont fait exploser ce week-end, tuant au moins 10 civils. L'armée assure que la zone est sécurisée, mais les habitants, plus rassurés, croient que ces villages sont infiltrés par Boko Haram. Le point avec Lionel Lunaniragahima.
S'exprimant dans une application de messagerie depuis le village de Blama Kamsulu dans le nord du Cameroun, Adamou Sidiki, responsable communautaire, affirme que des dizaines de personnes ont fui depuis l'attentat suicide de dimanche dernier.
Ça crée vraiment une psychose. Ça fait pas longtemps, les Boko Haram ont tué plus de 90 soldats tchadiens. Maintenant, c'est un attentat. Ce qui montre que Boko Haram est de retour avec force. Dans ce cas, il faut vraiment que l'armée camerounaise déploie plus de force afin de subvenir à la protection des Camerounais.
Le gouvernement de Yaoundé a précisé lundi dans un communiqué que deux kamikazes avaient été repérés la veille près de l'école primaire de Blama Kamsulu. Et toujours selon les autorités camerounaises, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient surveillés, ils se sont précipités vers la demeure d'un chef traditionnel et ont fait détonner leur charge d'explosifs. Le bilan est lourd, d'après Roger Safo, secrétaire général du bureau du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Sur place, il y a 9 morts et 15 blessés. Je veux saisir l'occasion pour appeler la population à être plus vigilante, faire preuve de prudence et collaborer avec nos forces de sécurité.
Il a ajouté que les blessés ont été transportés vers un hôpital de la ville voisine de Mora, où plus tard, l'un d'eux a succombé. 9 autres sont dans un état critique. Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, a fait savoir qu'il avait pourtant ordonné aux soldats de se déployer dans les villages frontaliers pour empêcher toute infiltration.
La population, le comité des villages notamment, essaie de mobiliser, accompagner nos forces de défense et de sécurité, leur fournir le renseignement nécessaire pour qu'ils puissent réagir en temps réel. Ce qui exige donc que nous soyons davantage beaucoup plus vigilants.
Le 24 mars, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé que 92 soldats de son pays ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram qui a duré plusieurs heures à Bohoma dans la région du lac Tchad. Selon lui, 24 véhicules de l'armée, dont les voitures blindées, ont été détruits et des armes emportées dans des vedettes rapides par des éléments de Boko Haram. Le groupe a également renouvelé ses attaques contre l'armée nigériane, tuant au moins 70 soldats dans une embuscade près du village de Goneri, dans l'état de Yobe le mois passé. Le Cameroun n'a pas signalé d'attaque d'envergure de Boko Haram ces 2 derniers mois, mais les djihadistes y reviennent régulièrement pour s'approvisionner en nourriture, kidnapper des personnes ou demander des rançons. C'est une autre manière de préparer la guerre lorsque presque tous les pays du monde entier sont paralysés par la peur d'un autre ennemi aussi invisible que meurtrier, le nouveau coronavirus.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Après l'incursion de Bakata Katanga et l'évasion du seigneur de guerre Gédéon Nyungu Mutanga de sa résidence surveillée le samedi 28 mars, Kinshasa a dépêché une commission d'enquête de plus de 80 personnes pour mettre la lumière sur le massacre au Katanga. Le reportage de Narval Mabila.
La commission de plus de 20 personnes est arrivée en week-end à Lubumbashi pour éclaircir sous l'incursion de Bakata Katanga. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, explique la raison de la présence à Lubumbashi de la commission.
Si c'est une mission commandée par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui nous charge d'exprimer sa profonde compassion au peuple katangais qui veut comprendre ce qui s'est passé ici, qui veut que la vérité soit rétablie, que les responsabilités aussi soient rétablies et que justice soit faite.
La commission serait le bien malvenu à Lubumbashi pour certains louchois qui réagissent au micro de VOA Afrique.
Déplorons le comportement de notre gouvernement étant donné que la ville de Kinshasa est en isolement, mise en quarantaine. Nous déplorons comment le gouvernement peut autoriser à un groupe de gens soi-disant ministres et autres, plus de 80 personnes qui se sont déplacées de Kinshasa vers Lubumbashi, qui ont comme mission faire des enquêtes à ce qui concerne l'incursion des Gédéons. Et ces gens, il peut arriver que parmi eux, il y a ceux qui sont atteints du coronavirus, étant donné que la ville de Lubumbashi, jusque-là, n'a pas de cas. Notre souci, c'est que ces gens peuvent encore venir nous amener le coronavirus à Lubumbashi.
Pour les députés nationaux, Nanou Memba, il craint à une expédition punitive.
Une délégation de 80 personnes, bonne nouvelle pour nous, mais c'est inquiétant de voir qu'il y a cette mobilisation rien que pour le Haut-Katanga. Avec ce que nous avons connu, bon, nous nous disons qu'ils doivent vraiment venir faire le travail. Hein. Il ne faut pas que ça se transforme en une opération ou une expédition punitive ou règlement de compte. Hein. De toutes les façons, nous pensons que la justice sera faite. Et surtout que nous, les députés, nous avions aussi sollicité que cette enquête soit faite, cette commission arrive. Il est vrai qu'aujourd'hui, Kinshasa fait peur. Kinshasa est pour nous le Congo, le berceau de ce virus. Parce que jusqu'à présent, le Haut-Katanga n'est pas encore atteint, ça c'est vrai. Mais d'après les informations que nous avions reçues, et au départ et à l'arrivée, nos amis ont subi et suivi les mesures sanitaires. Paraît-il qu'il y a eu même des dépistages qui se sont déroulés à Kinshasa, où on a eu des résultats rapides et des résultats confirmés par l'INRB.
Pour la société civile, la crainte est la propagation du Covid-19 avec la présence de cette commission.
Et ici, encore au Grand Katanga, ce n'est pas, nous ne sommes pas une période de guerre. Non, nous sommes en train de lutter avec la maladie, le coronavirus. Le gouvernement décrète l'état d'urgence sanitaire, mais nous voyons le gouvernement viole encore les textes et les lois. Là, c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec cette délégation. C'est bien de faire l'enquête, mais les nombres. C'est pourquoi nous tenons informer l'opinion tant nationale qu'internationale au cas où quand on va tester les gens positifs dans la ville de Lubumbashi, nous allons tenir responsable le gouvernement national. Une équipe de plus de 80 personnes faire l'enquête.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Alors que les écoles et les universités sont fermées pour éviter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso, la chaîne Burkina Info diffuse quotidiennement des cours donnés par des enseignants du primaire, secondaire, collège et lycée. Les détails avec Arzuma Compaoré.
Jean-Jacques Zundi est élève en classe de terminale. Tout comme de nombreux autres élèves et étudiants, il se demande aujourd'hui quel sera l'impact de la pandémie sur son éducation scolaire, puisque son école est fermée jusqu'à nouvel ordre.
C'est quand même inquiétant, surtout que le bac, là, je pense que la date était vers la fin du mois de juin, comme ça. Et donc, cela va être forcément modifié, puisque vu qu'on n'a pas eu de cours durant pratiquement un mois, ou peut-être même plus, donc, je pense que c'est une situation quand même qui inquiète nous, les élèves.
Mais depuis peu, la chaîne de télé privée Burkina Info diffuse un nouveau programme appelé Cours d'appui qui permet aux élèves et étudiants de suivre les cours à la télé. Wendlamita Marino Compaoré, professeur de philosophie, participe à l'effort.
Ça va permettre aux élèves de reviser aussi les cours parce que cette période est une période difficile, une période de psychose qui fait qu'on oublie même les cahiers. Mais si on sait que le lundi, à partir de 23h, on aura le professeur de philosophie, un temps soit peu, on se replonge dans l'univers un peu de la philosophie et on essaie de se familiariser, bien entendu, avec les concepts philosophiques et ça maintient, ça nous permet un temps soit peu d'oublier la psychose de cette maladie-là qui a contraint le monde à se confiner.
Sidonie est la mère de Jean-Jacques. Pour elle, les cours d'appui sont essentiels pour le suivi et le maintien du niveau des élèves.
Ça permet aux élèves de réviser pour ne pas tout oublier. Parce que je suis enseignante et je sais que si on fait même 2 semaines sans faire cours, si on repart, on ne sait même plus par où commencer parce que les gens ont tout oublié. Donc pour les classes d'examen, la troisième et la terminale, je pense que c'est une très bonne initiative que Burkina Info a eue.
Personne ne sait à ce jour quand les salles de classe seront à nouveau ouvertes au Burkina Faso. Pour l'instant, les uns et les autres ont les yeux et les oreilles tourner vers le petit écran.
Elle va travailler justement à avoir un apport.
Vous
êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Tout en admettant qu'il veut donner la priorité aux besoins nationaux, le président américain Donald Trump a nié avoir imposé un moratoire sur les envois outre-mer d'équipements de protection individuelle, comme des masques et des blouses médicales pour aider d'autres pays. Un reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, récit Blanche Sanou.
Une précieuse cargaison de gants, de blouses et de masques a été déchargée à l'aéroport JFK de New York, l'État américain le plus durement touché par le nouveau coronavirus. Le président américain Donald Trump s'est exprimé sur la question.
Pourquoi devrais-je arrêter ça? Ne serait-ce pas terrible de l'arrêter?
Donc les États-Unis arrêtent-ils l'exposition des stocks vers d'autres pays?
Non, quels que soient nos engagements, nous allons les maintenir. Mais nous avons aussi besoin de beaucoup pour nous-mêmes. Nous sommes donc très concentrés sur cela. Alors évidemment, nous n'allons pas trop expédier.
Les États-Unis demandent à des pays tels que la Corée du Sud de continuer à tester des kits et du matériel médical. Depuis le début de la crise, l'Amérique a reçu par achat ou don des fournitures de plusieurs pays.
La Chine nous a envoyé des équipements, ce qui était formidable. La Russie aussi nous a envoyé une très grande quantité de matériel médical, ce qui était très agréable.
Aux États-Unis, les agents de santé ont un besoin urgent de matériel médical, en particulier de ventilateurs et des équipements de protection individuelle, comme le témoigne William Schaffner de l'Université médicale Vanderbilt.
Nos institutions se tournent vers notre chaîne d'approvisionnement pour essayer de s'assurer que les équipements qui seront reçus au cours des deux prochains mois seront suffisants. Mais il y a des inquiétudes et des incertitudes à ce sujet.
Alors que les États-Unis se concentrent sur leurs besoins intérieurs, certains analystes avertissent qu'ils ne peuvent pas reculer devant leur leadership mondial pendant cette pandémie, en particulier lorsque la Chine et la Russie sont désireuses de combler le vide. Daniel Rondi du CSIS nous donne un aperçu.
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider les pays en développement en ce moment. Nous pouvons les aider en faisant de petits investissements dans les annonces de services publics pour nous assurer que les gens respectent la distanciation sociale et le lavage des mains. Il y a le fait aussi de soutenir, par exemple, la création d'usines textiles en Afrique pour la fabrication de masques.
La semaine dernière, les États-Unis ont promis une aide étrangère supplémentaire pour combattre le COVID-19, fournissant une première aide d'urgence de 274 millions de dollars à plus de 60 pays à risque. À cela s'ajoute le financement accordé aux organisations multilatérales, notamment à l'Organisation mondiale de la santé.
Cette édition à la mise en onde, Lunanira Lionel Gahima, Michel Joseph et Joselle Morissin, à la présentation Eric Manilakidza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous. À très bientôt.